Nous entendons parfois et souvent même dans la vie moderne les expressions obligation de résultat et obligation de moyens. Toutes les avez-vous entendues comme moi. Elles s'appliquent à diverses situations d'ordre professionnel, administratif, parfois même associatif. Elles résument ce qu'on est en droit d'attendre soit d'une personne physique, dans l'exercice de son activité, soit d'une personne morale, l'État, une collectivité, un établissement public, une société privée ou une association. Et ces expressions, obligation de résultat et obligation de moyens, résument assez bien en elles-mêmes ce en quoi elles consistent et se différencient. Obligation de résultat signifie qu'on est en droit d'attendre, je vous donne en mille un résultat, l'atteinte d'un objectif préalablement défini. Et tant que cet objectif n'est pas atteint, la personne physique ou morale qui s'est engagée à l'atteindre demeure débitrice en quelque sorte. Elle a une dette envers la personne physique ou morale qui l'a sollicitée, moyennant une contrepartie souvent financière, mais pas exclusivement. Elle ne peut se dégager de cette dette qu'en cas de force majeure. C'est-à-dire tout événement extérieur, exceptionnel et incontestable, susceptible de l'empêcher d'honorer l'engagement contracté. Mais en dehors de cela, elle demeure liée par les termes du contrat établi avec son créancier. Et cette obligation de résultat s'applique à un grand nombre de relations commerciales, de la vie civile ou professionnelle courante. L'obligation de moyens, comme son nom l'indique, engage le prestataire à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose en vue de parvenir à un résultat, mais sans le tenir responsable de la non-réalisation de l'objectif. La notion de résultat n'est donc pas absente, mais sa non-réalisation ne pourrait être invoquée pour engager la responsabilité de la personne physique ou morale dès lors qu'elle aura déployé tous les moyens visant à sa réalisation. En gros, elle doit faire de son mieux. Et cette obligation de moyens a cours dans un grand nombre d'activités comme la médecine, l'enseignement, la justice et j'en passe. En effet, un médecin ne peut s'engager sur la guérison de son patient. Son état peut être désespéré, son corps peut ne pas répondre au traitement, peut-être c'est le patient lui-même, quand ce n'est pas le patient lui-même qui ne le prend pas correctement. Le médecin a seulement une obligation de soins, donc de moyens, mais pas de guérison, même si la guérison, ou au moins l'amélioration de son état, reste le résultat visé. Un enseignant ne peut pas non plus s'engager sur la réussite de ses élèves, tant une grande partie de cette réussite dépend d'eux-mêmes. Et un avocat ne peut jamais garantir l'acquittement de son client, quand bien même serait-il innocent. Tant le jugement dépendra de nombreux autres facteurs, comme l'intime conviction des jurés, la pertinence des preuves, la force des arguments de l'accusation et tant d'autres choses. Ne pourra donc être reproché à ces personnes que le fait de ne pas avoir déployé tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'objectif, mais pas sa non-réalisation par elle-même. Mais si j'aborde ce sujet dans le contexte d'une prédication, c'est bien évidemment pour que nous nous posions la question sur nous-mêmes. En tant que personne et en tant que croyant, sommes-nous tenus à une obligation de résultat ou à une obligation de moyens? Même question en tant que communauté chrétienne, en tant qu'Église, sommes-nous tenus à une obligation de résultat ou à une obligation de moyens? Obligation envers qui? Envers Dieu? Envers les hommes? Alors, nous allons reprendre ceci. Par manque de compétences juridiques, je m'abstiendrai seulement d'aborder ici cette question en tant qu'association, en tant que personne morale au regard de la société civile, qui est encore un domaine qui est réservé à des personnes plus autorisées que moi. Et comme point de départ de cette réflexion, je vous propose un texte biblique qui nous servira d'exemple. Et je parle d'exemple car de nombreux textes pourrait être choisi pour argumenter et illustrer ce sujet. Mais moi, c'est ce texte-là qui s'est imposé à mon esprit au moment de me lancer dans cette thématique. Et ce texte, il s'agit de Jean 13, donc l'évangile de Jean au chapitre 13. Un très court passage, les versets 34 et 35. Une parole de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Obligation de résultat ou obligation de moyens? Pas si simple. À première vue, nous avons là un moyen à déployer. Nous aimer les uns les autres. Et nous avons un résultat à viser, la reconnaissance par tous de notre statut de disciple. Mais après, il va falloir discuter les détails. Côté moyen, nous aimer les uns les autres, ça signifie quoi concrètement? Où allons-nous placer le curseur? Qui sont ces autres? Où est la limite? Mes frères et mes sœurs en Christ seulement? Trop facile. Dans un sens plus large, mon prochain? Dans un sens encore plus large, tous les hommes? Mais est-ce vraiment trop facile? Si ce sont mes frères et sœurs en Christ seulement, nous avons évoqué ce point, si vous vous souvenez, lors de notre parcours de la première épître de Jean, où je citais C.S. Lewis, il est plus facile d'être enthousiasmé pour l'humanité avec un grand H que d'aimer individuellement des hommes et des femmes, en particulier ceux qui sont inintéressants, exaspérants, dépravés ou peu attirants d'une manière ou d'une autre. Aimer tout le monde en général peut être une excuse pour n'aimer personne en particulier. Mais la question n'est pas de définir une limite, c'est-à-dire là où mon amour s'arrête, mais là où il commence. Et c'est drôle, cette propension que nous avons à tout de suite mettre mettre des limites au commandement de Dieu, de Jésus. Et on la retrouve aussi dans cette question de Pierre. Combien de fois devrais-je pardonner? Pauvre Pierre, qui pensait faire œuvre d'une mensuétude exceptionnelle en proposant 7 fois. La réponse de Jésus est cinglante, 70 fois 7 fois. Et elle balaie cette approche trop tatillonne, trop juridique de ses commandements. Cette réaction révèle néanmoins, et on s'y reconnaît bien, combien nous avons peur des conséquences d'un engagement plein et entier à obéir aux commandements de Jésus. Et c'est ce à quoi nous avons affaire ici, un commandement. Il le dit lui-même. Je vous donne un commandement nouveau. Nouveau, ça veut dire que ça commence maintenant. Et il faut s'y mettre, là, tout de suite. Alors ce n'est pas maintenant, alors que nous commençons à peine, que nous allons nous poser la question de où et quand nous pourrons arrêter. Et de fait, ça ne s'arrêtera jamais, ni dans l'espace, ni dans le temps. Comment imaginer que, après avoir aimé nos frères et nos sœurs de l'amour du Seigneur, en les aimant comme lui nous a aimés, c'est-à-dire en nous donnant nous-mêmes à eux, débordant de cet amour donné et reçu, comment imaginer qu'il n'en reste rien pour nos prochains? Comment imaginer qu'ayant connu le salut de Dieu, par amour, nous nous désintéressions du sort de cette humanité qui se déverse par train entier dans la perdition? Par contre, si nous nous mettons à détester un seul frère, une seule sœur, un seul, c'est une limite que nous posons là, devant nous, à notre amour les uns pour les autres, quel qu'il soit. Et ce sera au fond de nous une contradiction intérieure que nous ne pourrons surmonter, telle que nous n'irons pas plus loin et que nous resterons bloqués là, incapables d'avancer. Elle finira même par se voir de l'extérieur jusqu'à en devenir repoussante. Le témoignage d'une fraternité qui se déchire est un désastre qui n'attire que mépris et dédain. Le monde ne l'accepte pas. Le monde ne le comprend pas. C'est un obstacle à notre témoignage. Et c'est tout le contraire du résultat espéré dont nous allons parler maintenant. Et ce résultat, quel est-il ? Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors avec ce tous, nous avons un peu le même genre de problématique que les uns et les autres. S'agit-il de tous au sens littéral, c'est-à-dire tous, chacun pris individuellement, sans exception, ou un sens plus général, plus collectif ? Je pense à une expression comme « la foule », par exemple, que nous rencontrons dans les évangiles, et qui tantôt acclame Jésus et tantôt le conspue. Tous l'ont-ils acclamé ? Tous pris un par un ? Tous l'ont-ils conspué ? Probablement non, et je pense plutôt pour cette interprétation, tous collectifs, mais là, et là est le point important, il y a un résultat à la clé. Mais ce résultat n'est-il qu'un idéal inatteignable par définition ? Alors, un fait biblique s'en rapproche tellement qu'il semble concrétiser directement l'affirmation de Jésus. Peut-être y avez-vous pensé comme moi. Lors des premiers temps de l'Église, nous lisons dans les Actes que les croyants de la jeune communauté de Jérusalem, qui vivaient en pleine communion les uns avec les autres, qui vivaient dans l'unité et partageaient ce qu'ils possédaient, qui vendaient leurs propriétés pour se répartir l'argent selon les besoins de chacun, obtenaient la faveur du peuple. Le peuple, une autre façon de parler de tous. Nous avons évoqué ce qu'est ce résultat et évoquons ce qu'il n'est pas maintenant. Ce résultat, que n'est-il pas ? Le texte est clair, il n'est pas la conversion de tous. Malheureusement, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, mais tous ne deviendront pas mes disciples. D'une part, parce que l'amour que vous aurez les uns pour les autres est l'un des moyens qui témoignera silencieusement et presque, je ne dirais pas à notre insu, mais d'une manière qui nous dépasse de mon amour pour eux, de l'amour de Jésus pour eux. Mais ce n'est pas le seul. Souvenons-nous des trois critères propres aux disciples de Jésus, tels que nous les avons vus relevés dans la première épître de Jean. L'amour pour les frères, l'obéissance au commandement de Jésus et l'attachement à la vérité de sa parole. Et c'est aussi ce qui ressort du témoignage de la jeune Église de Jérusalem, l'assistance assidue à l'enseignement des apôtres, l'obéissance au commandement de Jésus comme la prière communautaire et la fraction du pain, des choses que nous avons pratiquées ici même ce matin. Et c'est pourquoi nous avons aussi, à côté de cela, le commandement de nous nourrir de la parole de Dieu afin d'être en mesure de la proclamer pour indiquer aux hommes le chemin de la vie éternelle. C'est pourquoi nous avons, en particulier dans le Sermon sur la montagne, le commandement de marcher dans la justice et dans la vérité, de sanctifier nos vies, afin qu'elles soient aux yeux des hommes à l'image du Dieu parfait que nous annonçons. Mais même malgré cela, tous ne deviendront pas disciples de Jésus, parce que personne ne peut décider pour un autre, parce que Dieu nous a créés libres de nos choix et en particulier libre de le choisir lui. Il n'y a jamais dérogé tout au long de l'histoire de l'humanité. Et Jésus lui-même s'est soumis à cette disposition. Des foules entières l'ont accompagné. Et parmi elles, chacun de ceux qui l'ont suivi pour la vie, qui ont fait un choix envers lui, l'ont fait librement. Personne ne s'est vu devenir disciple en dehors de sa volonté personnelle. Tous ont connu cette perforation du questionnement, par ce questionnement intérieur, qui est cet homme ? Est-il vraiment le Fils de Dieu ? Puis-je le suivre en toute confiance ? Me conduira-t-il à la vie éternelle ? Et bien d'autres questions encore. Mais ceux qui ont trouvé des réponses négatives à ces questions, si tant est qu'ils se les soient posées, ou ceux qui ont trouvé le choix trop radical, trop engageant, comme on le lit au chapitre 10 du même évangile, tous ceux-là ont pu s'éloigner librement de Jésus sans qu'il use à aucun moment de ses moyens divins pour les retenir. Pour conclure sur ce point, nous relèverons dans les Actes des Apôtres qu'après que les croyants avaient obtenu la faveur du peuple, plusieurs venaient s'ajouter à l'Église, mais pas tous. Alors, obligation de résultat ou obligation de moyens ? Je ne vous l'ai pas dit, mais je n'ai pas l'intention de répondre à cette question. Avec l'emploi de ces expressions, se dessine toute une approche juridique de l'engagement des responsabilités, qu'elles soient individuelles ou collectives, et nous risquons d'entrer là dans une dimension contractuelle, avec ses exigences et ses clauses de responsabilité au relent un peu tatillon. Alors je ne crois pas que ni les croyants, ni la communauté de l'Église ont à appréhender les commandements de Dieu sous un angle contractuel et encore moins juridique. On a vu ce que ça a donné avec la loi. Or, nous sommes sous le régime de la grâce. Tout est grâce. Le salut en Jésus est une grâce. Et vous, mes frères et mes sœurs, c'est une grâce pour moi. Notre Église est une grâce de Dieu pour nous tous et pour cette ville. Et ce bâtiment est une grâce de Dieu. Travailler ensemble à l'avancement du royaume de Dieu est une grâce inouïe, inouïe au regard de nos moyens et de nos compétences. Dieu ne nous doit pas un résultat en échange de nos efforts. Pour ce qui concerne l'Église, plus que tenue d'apporter un enseignement biblique à ses membres, l'Église y est avant tout appelée et mandatée par Dieu lui-même, et surtout pas en échange de l'adhésion ou de la participation de ses membres. Lorsque nous avions de très jeunes enfants, que je pense que comme dans toutes les familles, ils jouaient au culte, dans toutes les familles chrétiennes, ils jouaient au culte. Et puis à un moment, au moment d'évoquer les offrandes, ils disaient « Maintenant, c'est le moment de payer le culte. » Alors, dans leur compréhension d'enfant, c'est ce qu'ils ont compris, mais nous sommes empressés de leur expliquer que ce n'était pas tout à fait ça. Si nous exerçons quelques responsabilités dans l'Église, et ce qui est le cas d'un grand nombre parmi nous, de ceux qui sont présents et de ceux qui sont absents, c'est encore là une grâce de Dieu. Et non seulement ça, mais il va nous équiper et nous guider dans l'exercice de cette responsabilité. Vraiment, ce que nous recevons de lui est grâce sur grâce. Alors, si nous avons une dette, c'est envers Dieu et lui seul. Et autant le dire tout de suite, nous ne la rembourserons jamais, ni dans cette vie, ni dans l'autre. Nous allons passer, et il faut nous y habituer, nous allons passer le reste de notre vie avec une dette qui ne fera que croître au gré des grâces qu'il va nous dispenser jour après jour. Autant s'y habituer et nous faire grâce les uns aux autres de ce que nous attendons d'eux et qu'ils ne nous donnent pas. Nous faire grâce en tant qu'Église pour tous les trous qui sont encore dans la raquette et que Dieu comblera dans sa grâce le moment venu, comme il l'a fait par le passé, comme tant de fois. Et qui sait peut-être en nous y appelant personnellement, à moins qu'il ne nous appelle à continuer le jeu avec ce trou, comme Paul avec sa faiblesse dans la chair. Sa grâce nous suffit, non ? Alors, j'ai été tout de même un peu vite en besogne en disant que nous n'avons de grâce envers personne, si ce n'est envers Dieu. Paul tout de même fait une exception pour les Romains. Donc, très probablement pour nous aussi. Ne devez rien à personne, jusque-là tout va bien, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Nous aimer les uns les autres, ça oui, nous nous le devons. Et ce n'est pas un contrat que Jésus nous propose ici, mais un commandement doublé d'une perspective Le commandement se suffit déjà à lui-même. Il n'a pas besoin d'être justifié. Si vous m'aimez, respectez mes commandements, dit Jésus au chapitre suivant. Nous suivons l'enseignement de Jésus et nous observons ses commandements parce que nous l'aimons et non parce que nous obtenons quelque chose en échange. Mais parce que nous l'aimons et parce qu'il nous a demandé de faire des disciples partout où nous trouverons, alors nous aurons à cœur de nous montrer dignes de lui, afin que, au travers de nous, tous puissent le percevoir, lui. Reconnaître en nous ses disciples, c'est déjà entrer en contact avec lui, comme ont pu le faire toutes les foules qui l'ont suivi pour un temps ou plus durablement lorsqu'il est venu sur la terre. La suite qu'ils donneront leur appartient. C'est entre Dieu et eux. Et donc Jésus nous dévoile là un moyen, pas le seul, mais sans doute un des plus importants, une des clés propres à entrouvrir la porte des cœurs. Et nous voyons donc ici moyen et résultat s'entrecroiser, à tel point qu'on distingue plus très bien ce qui est de l'un ou de l'autre. Nos résultats d'aujourd'hui sont nos moyens de demain. Nous aimer les uns les autres est un moyen de témoigner autour de nous, mais c'est aussi le résultat de notre amour et de notre obéissance envers Jésus. Amen.